Bouchard en parle, présenté par Ludovica Le Monde Miniature, le plus grand parc de type Legoland en Amérique. Un tour du monde à travers plus de 3000 bâtiments. Place Fleur-de-Lys, entrée 1. Ludovica.ca.
7h39, la une du Journal de Québec ce matin. On apprend qu'il y a de plus en plus de profs non qualifiés qui enseignent à vos enfants. Par non qualifiés, on n'est pas en train de dire que c'est des profs qui ont eu de mauvaises évaluations là, ou quoi que ce soit. On est carrément en train de dire que c'est des profs, des personnes qui n'ont pas de baccalauréat en enseignement. Et ce qu'on dit, c'est que le nombre de profs non qualifiés, c'est en hausse, en fait, dans les écoles. On parle d'une augmentation de 22 % depuis seulement 2 ans. On sait qu'on fait face à une pénurie de main-d'œuvre, mais je pensais vraiment pas qu'on pouvait donner un pouvoir d'enseignement à des individus qui n'ont pas de bac en enseignement. Parce qu'on sait que le baccalauréat, en plus, en enseignement, c'est pas un simple bac de 3 ans, c'est 4 ans avec des stages, et puis c'est assez complet, là, comme éducation.
Mais ça se fait depuis longtemps, mais ce qu'on fait souvent, c'est oui, on t'accepte, oui, tu vas donner des cours, mais à partir du moment où tu mets un pied dans l'établissement, tu te dois de t'engager dans des études pour aller chercher ces certificats-là.
C'est ça. Sauf que là, on a mis en place des tolérances d'engagement aussi. On a octroyé ça et donc ça permet d'avoir une plus grande latitude par rapport à l'embauche de ces profs-là. Et pour savoir un petit peu de quoi il s'agit, on va aller parler à Josée Scalabrini. Elle est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement et elle est au bout du fil. Madame Scalabrini, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, Mme Scalabrini, dans un premier temps, j'aimerais savoir, là, on dit que c'est en hausse de 22 % depuis seulement 2 ans. Est-ce qu'il y a un autre facteur que la pénurie de main-d'œuvre qui peut expliquer ça?
Moi, je vous dirais que c'est ce qu'on a fait de la profession enseignante, là. Moi, je continue à dire qu'on a une des plus belles professions au monde. Je suis une enseignante, j'adore ce que je faisais dans une classe, mais avec les années, on a laissé tomber les enseignants, on a abandonné les enseignants. Dans le discours, on a continué à dire que c'est important, l'éducation, mais les gens qui se sont confrontés à l'éducation avec les choix de société qu'on a fait dernièrement et que les gouvernements ont fait, de plus en plus, notre profession a perdu de l'attrait. Que ce soit la composition de la classe, que ce soit la banalisation de la violence dans nos écoles, que ce soit le soutien qui a été absent, c'est ce qu'on a fait de la profession qui fait qu'il y a moins d'inscriptions à l'université, il y a de plus en plus de congés d'invalidité. Je pense que vous avez peut-être vu la semaine passée, on a dit qu'il y avait, sur les 5 dernières années, une augmentation de 13 % des congés d'invalidité. Et de plus en plus, on demande aux gens maintenant, à cause de la pénurie, en plus de faire leurs tâches, de faire de la suppléance dans leur journée, ce qui était généralement occasionnel. Donc, ce qu'on a fait de notre profession fait qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent, il y a de plus en plus de gens qui tombent au combat. Mm-hmm. Et il y a un cri du cœur là qui dit, est-ce que quelqu'un va redorer ce blason-là de la plus belle profession?
Alors là, si on parle de profs non qualifiés, moi, je savais depuis très longtemps que souvent les suppléants auxquels on va faire appel pour les classes, c'est souvent des gens qui sont étudiants en enseignement, puis ils sont payés de très, très bons salaires, en fait, pour surveiller une classe. Mais ils ne donnent pas de cours en tant que tel. Souvent, le professeur a préparé une activité et puis le suppléant est là pour surveiller. Mais là, ce qu'on apprend ce matin, c'est que tu as des enseignants qui ont le titre d'enseignant. En fait, ils donnent des cours, mais ils n'ont pas de baccalauréat en enseignement. Qu'est-ce qu'ils ont comme formation exactement, ces gens-là?
Ça, je tiens à répéter là qu'on parle pas d'incompétence. Là, on dit seulement de non légalement qualifiés au niveau de la pédagogie. Là,
c'est
parce
ça.
Que des fois, tu as des gens qui peuvent avoir des bacs dans des matières comme telles. Si on parle du secondaire, là, ils peuvent déjà avoir un baccalauréat, mais il leur manquait la dimension pédagogique. Donc, oui, ces gens-là, quand ils sont engagés, ils sont accompagnés, ils sont suivis. Mais ils sont capables d'enseigner avec cet accompagnement-là. Là. Et comme vous le dites, c'est souvent des gens qu'on va aller chercher à la 3e ou à la 4e année de leur bac pour essayer de combler des postes parce qu'on n'a pas trouvé d'enseignants. Et ça doit pas être la norme. Oui, dans des régions, c'est beaucoup plus présent que d'autres parce que les pénuries sont beaucoup plus présentes. Mais c'est des gens qui sont quand même, qui doivent être accompagnés dans la profession. Mais moi, je le ramène souvent, ça. Quand on parle des 20 % qui quittent la profession dans les 5 premières années, là, à l'occasion, moi, j'ai vu des gens qui, parce qu'ils sont arrivés trop vite dans le milieu et qui n'étaient pas prêts à être confrontés à toutes les difficultés que l'on vit de notre composition de la classe actuellement, se découragent et quittent sans même avoir été chercher leur 4e année. Du bac.
Donc, ce sont des gens qui ont commencé leur bac. Là, juste être certaine que je comprenne bien, c'est des gens qui ont entrepris un bac en enseignement, mais qui l'ont pas nécessairement terminé. C'est de ça dont on parle?
Ça peut être ces gens-là, comme ça peut être des gens qui ont un bac dans une matière comme telle, un bac en mathématiques, un bac en histoire, et je veux me réorienter, donc je vais appliquer sur des postes qui s'ouvrent parce qu'on est en pénurie, même si j'ai pas ma pédagogie, et on va dire à ce moment-là, d'accord, on va t'engager, mais tu vas devoir t'inscrire à l'université pour aller chercher ta pédagogie.
Mais à quel moment ils vont avoir le temps d'aller chercher leur pédagogie s'ils sont rendus profs à temps plein?
Par les soirs et par les fins de semaine.
Fait que c'est un gros contrat quand même, là.
Quand on parle là de 13% d'augmentation aussi de congés d'invalidité, là, ouais, de complexification de la tâche, parce qu'il faut s'ajuster au mode pédagogique aussi, parce que vous savez que nous, en pédagogie au Québec, là, on suit les modes qu'il y a un peu partout dans le monde. Hein. Quand quelque chose semble être populaire en quelque part, on le prend, on fait descendre ça dans les milieux, puis il faut que les enseignants s'ajustent à ça. La formation continue, là, ce n'est pas que pour ceux qui arrivent puis qui vont aller chercher leur pédagogie, là. Les enseignants au Québec sont des enseignants qui continuellement sont en formation. Et ça se passe effectivement de soir, de fin de semaine, dans des journées pédagogiques, ça se passe ailleurs. Et en plus de ta tâche à 100%.
Et là, si je comprends bien, parce que vous parlez de baccalauréats qui sont plus spécialisés. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir un bac en mathématiques et être embauché comme enseignant dans une école. Mais est-ce qu'obligatoirement, il va enseigner seulement les mathématiques ou il pourrait se retrouver à enseigner l'histoire, même s'il n'y a aucune compétence là-dedans?
Moi, je vais vous dire que ça va aller avec le besoin de l'école.
Alors, ça se peut
si
qu'un bac...
Personne, plutôt que la chaise vide, là,
ouais,
vaut mieux quelqu'un qui n'est pas formé dans cette matière-là, mais qui a des notions de pédagogie, parce que déjà, il est en train de suivre certains cours de pédagogie, qu'une chaise vide, là, ou que quelqu'un qui n'a aucune notion en éducation. Là.
Non,
il y a
je
quand
comprends.
Même des notions en éducation quand on est à la troisième et quatrième année du bac, ou quand on a fait de la suppléance avant, même sans avoir notre pédagogie.
Non, je comprends, mais quelqu'un qui a un bac en histoire, qui se ramasse à enseigner les mathématiques, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a eu l'enseignement de pédagogie pour enseigner cette matière-là. C'est l'équivalent de dire que moi, j'ai un bac en communication, mais je pourrais t'embaucher demain matin comme enseignante dans une école avec la promesse de terminer un bac en pédagogie, là.
Et c'est là qu'on dit que le fait qu'on ait plus de temps entre nous, le fait qu'on ait comblé tout le temps qu'il y avait, comment veux-tu venir appuyer un confrère qui vient d'arriver, qui n'a aucune notion dans sa matière, qui n'avait aucune notion de pédagogie, comment peux-tu trouver du temps pour travailler en équipe? Et ça, c'est une de nos revendications depuis longtemps. Pouvez-vous nous donner de l'espace pour qu'on soit capable, dans une école, de travailler ensemble, de se parler pour s'entraider les uns les autres, parce que c'est ça aussi un esprit d'équipe dans une école, là. Mais je vous répète, qu'on passe tellement de temps à faire de la gestion de classe parce que la classe dite régulière n'existe plus, que le soutien n'est plus là, puis les coupures qu'on a eues, que c'est pas attrayant pour les enseignants présentement. Et c'est pour ça qu'on a des grandes pénuries présentement.
Mais là, OK, donc pour que ce soit clair, là, moi, j'ai un bac en communication. Alors, je pourrais très oui. bien appliquer pour un poste dans une école demain matin puis être embauchée à titre d'enseignant, là.
Si on a fait une recherche avant pour s'assurer qu'il n'y avait pas de légalement qualifié, là. Si effectivement la commission scolaire est capable de démontrer qu'elle a fait une recherche, qu'il n'y avait personne de légalement qualifié, vous venez vous présenter.
Ouais, ouais.
Oui, on va vous engager,
ah, oui?
mais on va vous
okay.
demander de vous d'embarquer dans une recherche de formation en pédagogie, de vous inscrire à l'université.
Ouais, ouais.
Mais il faut qu'il démontre avant que la recherche de légalement qualifié a été faite.
Oui, ouais, je comprends, mais on s'entend que le jour 1 de mon nouvel emploi, j'aurai pas du tout de compétences, là, c'est ça. Là.
Vous partez de très loin et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'assurer qu'il y ait un accompagnement, il faut s'assurer que l'équipe dans cette école-là soit capable de vous appuyer là-dedans.
Et donc, on parle, là, si j'ai vu les chiffres ce matin, on parle de, en 2017-2018, il y a eu 1127 tolérances d'engagement qui ont été accordées. Ça veut dire que dans cette année-là, il y avait 1127 enseignants dans les écoles qui n'avaient pas de bac en enseignement. C'est bien ça?
C'est ce que les statistiques viennent nous dire.
OK. Ça me semble quand même problématique. Je comprends que c'est hors de votre contrôle un petit peu parce que ça prend des gens quand même qui vont enseigner à nos enfants. Mais c'est parce que ça fait pas vraiment de sens qu'une fille comme moi qui a un bac en communication pourrait se ramasser enseignante demain matin. J'ai aucune qualification là-dedans. Fait que je trouve ça un petit peu spécial quand même là, comme façon de fonctionner. Vous trouvez pas?
Ben, moi, je vais vous dire qu'avant d'arriver là, vous, là, probablement, là, qu'il y a d'autres personnes
oui,
qui étaient non légalement qualifiées,
oui.
qui vont avoir fait de la suppléance, qui vont passer à ces contrats-là. Là. Vous, probablement qu'on va vous mettre dans une liste de suppléances. Puis, parce
okay.
que tantôt, vous avez décrit les suppléants là, comme
oui,
des
oui.
gens qui sont des surveillants de classe. Là. C'est une très mauvaise image. Là. On sait fort bien qu'il y a des suppléants là, qui arrivent et qui donnent des cours, là, qui prennent la matière et qui vont donner des cours. Donc, il faut faire attention avec ça. Là.
Ben moi, les suppléants que j'ai toujours connus, c'était des gens qui n'avaient pas le droit de donner le cours parce que c'était des étudiants souvent de première année au bac en enseignement, par exemple. Alors, il n'y avait pas
et
le droit
là,
de
je
donner
vous dis,
le cours.
Ça dépend ouais. du bagage que tu as quand tu arrives là.
Okay.
On peut pas demander à un technicien en éducation spécialisée peut-être d'aller donner le cours, là, mais quelqu'un qui a un bagage. On avait des listes et des listes de gens qui étaient disponibles pour venir faire de la suppléance. Fait que généralement, dans les dernières années, quand tu appelais quelqu'un pour venir faire de la suppléance, il y avait déjà son bagage, malheureusement, avec les mesures à la pièce qu'on a annoncées à la dernière minute, parce qu'il y a des élections qui s'en venaient. On a vidé ces listes-là, on n'a pas amené des permanences dans le milieu pour autant. Là, on va être encore dans un système où, si c'est plus payant à un moment donné de retirer des budgets quelque part, on va le faire. Et là, les listes vont se rappeler. On est toujours à la merci du gouvernement et des politiques et des élections qui s'en viennent. Et c'est pour ça aussi, M. Roberge nous dit qu'il veut stabiliser cette situation-là. Bien, on a hâte de voir de quelle façon il va le stabiliser. Parce que oui, ça serait important d'être capable de donner une stabilité à nos écoles et à nos équipes écoles pour travailler ensemble à chercher des solutions.
Et si demain matin, on interdit aux commissions scolaires d'embaucher des enseignants qui n'ont pas complété leur bac au complet, on va se retrouver dans quelle sorte de situation au Québec? J'imagine qu'il va y avoir des manques de postes, il va y avoir des postes à combler un peu partout.
Ben moi, je dis qu'on peut pas faire ça présentement. Il faut redorer la profession enseignante au départ. Il faut repenser la composition de nos classes. Il faut s'assurer qu'il y a du soutien. Il faut s'assurer qu'il va y avoir de moins en moins de projets particuliers sélectifs, que si on intègre, le soutien sera là. Et là, tu vas donner le goût à des enseignants de venir. Puis j'ai le goût de dire, m'en faire un clin d'œil, tant qu'à y être. Parlons donc du salaire des enseignants. Là. Permettons aux enseignants au Québec de gagner le même salaire que les autres enseignants un peu partout au Canada. Ça amènerait peut-être un plus aussi dans notre profession. Mais on ne peut pas dire demain matin, on va interdire toute personne qui est non légalement qualifiée. Qu'est-ce qu'on fait dans les classes où il n'y a personne? Il ouais. faut quand même s'assurer qu'il y ait quelqu'un devant une classe. Puis moi, je dis, j'aime mieux quelqu'un de non légalement qualifié que la chaise vide.
Parfait. Merci beaucoup, Mme Scalabrini, d'avoir été avec nous ce matin.
C'est un plaisir.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée. Josée Scalabrini est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Ce qu'on apprend ce matin dans le journal, c'est que, bon, évidemment, c'est dans un cas extrême, là, mais quelqu'un comme moi qui a un bac en communication, qui n'a jamais enseigné, qui n'a jamais fait de suppléance, pourrait possiblement se retrouver à enseigner dans une classe. Comme Mme Scalabrini l'a bien dit, il y aurait bien des étapes avant de m'envoyer là. Il faudrait démontrer qu'il y avait vraiment personne d'autre de plus compétent que moi pour le faire. Puis d'après moi, il y en aurait, là, parce que j'ai zéro compétence là-dedans. Mais c'est quand même problématique là, de se dire ça. J'ai jamais touché à une notion d'enseignement de toute ma vie. Là. J'ai un bac, oui, mais je comprends aussi le principe que sinon la classe est vide. Là. Ouais. Il n'a pas de prof.
Mais je te rejoins pas à 100% là-dedans parce que il y a bien des gens que j'ai croisés dans mon parcours qui, moi, ont été vraiment plus pertinents que des enseignants qui, oui, étaient extrêmement bons de façon pédagogique. Mais quand on parle de qualification, on parle de gens qui ont une formation poussée. Peu importe le domaine. Toi, t'es en médias, par exemple. On va prendre ton cas, là. Tu pourrais probablement aider des jeunes qui veulent travailler dans les médias en se disant, gars, Elisabeth, elle a quand même un bagage en arrière d'elle. Elle a un micro chaque jour en avant d'elle. Peut-être que tu pourrais apporter des choses beaucoup plus pertinentes.
Pis dans mon domaine,
sinon,
oui.
Autant pertinentes que quelqu'un qui va juste donner des cours toute sa carrière.
Mais dans mon domaine, oui, Pascal, mais pas en maths. Ce que j'ai compris dans l'entrevue avec Mme Scalabrini, c'est que je pourrais quelqu'un qui a un bac en histoire peut se retrouver à enseigner les mathématiques.
Ça, c'est notre problématique. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont la possibilité d'enseigner dans leur domaine.
J'ai normalement, plus l'impression que c'est ça. C'est exact. Des gens qui ont des bacs en histoire qui se retrouvent enseigner l'histoire sans pédagogie. C'est
la pédagogie. Dépendamment des besoins, elle l'a bien dit. Si les besoins de l'école, ça c'est en français ou en maths, c'est là que ça ne fonctionne pas pour moi. Parce que si j'ai un bac en communication, peut-être que oui, éventuellement, je vais être qualifiée pour enseigner mon domaine de travail et mon domaine d'études, mais pas aucun autre domaine.
Mais c'est quoi, Elisabeth? Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ça se peut très bien que tu sois meilleure pour enseigner. On prend ton cas, on personnalise comme c'était. On t'arrête de te faire un pitch de vente que tu deviennes prof.
C'est
tout à fait possible.
Pas d'enseigner.
Non, mais ça pourrait être n'importe qui. Là. Ça pourrait être un monsieur qu'on croise dans la rue. Okay. Ça se peut qu'un monsieur qu'on croise dans la rue ait plus de capacité pédagogique qu'un enseignant qui a suivi un cours de pédagogie
universitaire. Ça, c'est vrai. Absolument.
C'est pas un absolu, la formation en pédagogie. Puis il y a bien des profs qui vont dire aussi qu'ils perdent bien du temps avec le cours de pédagogie à l'université, puis qu'ils aimeraient plus ça, avoir des notions appliquées sur la matière qu'ils enseignent que sur la manière ou les théories de l'enseignement du 19e siècle qui se font enseigner pendant 2-3 ans de test.
Mais ça, tu as tout à fait raison, sauf que ça peut s'appliquer à plusieurs domaines. Au même sens que c'est pas tous ceux qui ont un bac en communication qui sont les meilleurs dans le domaine des communications. Exact. Je pense que tu as une partie qui est innée. Alors, mais ça, on peut l'appliquer à bien des domaines, par exemple.
Comme il y a des enseignants qui, premièrement, enseignent des théories extrêmement claires et précises, puis vraiment qui vont te permettre d'avancer dans ta carrière plus tard. Mais quand tu les mets sur le domaine, là, tu les pousses dans leur carrière à eux, par exemple, à faire du micro, là, à la radio, qui pourrait être totalement, vraiment moins bon qu'un autre. mais que du côté pédagogique, ils soient extrêmement forts pour enseigner à des élèves. T'as quelque chose dans notre métier qui s'appelle le pouls de la radio. Tu peux avoir un excellent pouls de la radio, être extrêmement bon pour orienter des gens, conseiller des gens, écouter, puis dire, hey, ça, c'était très moyen, mais toi, quand tu vas au micro, t'es pas capable d'appliquer tes propres connaissances.
Ah non, c'est
mais
ça.
Tes connaissances ont aidé beaucoup, par exemple.
Mais ça, je suis d'accord. Si on parle du même domaine de travail, je vous suis à 100%, mais c'est pas ça la réalité que Mme Scalabrini a décrit. Ce qu'elle a dit, c'est vous pouvez avoir un bac dans une spécialité quelconque et vous pouvez vous retrouver enseigner dans une école secondaire une matière qui n'a aucun rapport avec votre compétence.
C'est là le problème. Il faut que
tu maîtrises. Il est là le problème. C'est sûr que dans un monde idéal, tu as un bac en histoire, tu vas enseigner l'histoire au secondaire puis tu peux être excellent là-dedans. Là, ça, je vous suis à 100%. Mm-hmm. Mais si tu as un bac en histoire puis tu te retrouves à enseigner les maths ou le français, ça fait pas de sens.
Mais ça arrive souvent, notamment au remplacement. Tu vois, là, à l'école secondaire, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui, par exemple, ont étudié en mathématiques puis se ramassaient à remplacer dans des classes d'éthique et culture religieuse. Mm-hmm. Parce qu'à la base, un remplacement, tu prends la copie du prof qui est là normalement à longueur d'année, tu mets exactement en application ce qui est écrit. N'importe qui est capable de faire ça si tu as un bac en enseignement. Oui. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est sûr que de prendre une classe de maths quand c'est pour toute l'année, quand c'est pas non. du tout.
C'est ça. Là, tu prends la classe. C'est pas un remplacement.
Mais je pense pas que c'est la majorité des gens qui se retrouvent dans une classe qui vont zéro avec leurs compétences. Je pense beaucoup plus que ce sont des gens qui ont un parcours professionnel tout autre et qui se ramassent en enseignement, mais qui sont qualifiés pour l'enseigner.
Ah, mais ça, si je vous dis moi-même que je prônerais ça. Si tu enseignes les maths au secondaire, tu devrais avoir une formation en mathématiques. Si tu enseignes l'histoire, tu devrais en avoir une formation. Mais là où ça fonctionne pas, mais je comprends qu'on est dans une situation particulière au Québec, c'est que tu as des gens qui se retrouvent à enseigner au secondaire une matière et non seulement ils n'ont pas de compétences en pédagogie et en plus, ils n'ont pas de compétences dans la matière qu'ils enseignent, mais ils ont un baccalauréat et un diplôme. Puis je blâme pas le syndicat des profs, ils n'ont pas le choix de le faire. Si c'est pas ces gens-là qui vont devant la classe, il n'y aura personne. On est vraiment dans un problème majeur au Québec. Est-ce que l'image des professeurs a été entachée un petit peu dans les dernières années? Je pense que oui. Je pense pas que c'est très attrayant présentement de devenir professeur au Québec. J'espère vraiment, vraiment, par contre, que ça va changer parce que je trouve ça dommage. On veut avoir les meilleurs profs au Québec. On veut que les profs soient évalués. On veut avoir les meilleurs enseignants pour enseigner à nos enfants. Mais pour ça, ça prend un minimum de compétences. Ne deviens pas enseignant qui veut, là, quand même. Il y a plusieurs réactions, 25226. Pascal, si tu peux en lire quelques-unes.
Oui, effectivement, ça fait réagir. Oui. Il y a des profs de business qui n'auront pas le courage d'être entrepreneurs. Effectivement, c'est vrai, mais qui enseignent quand même parfaitement la matière. Pierre qui écrit: je suis parfaitement bilingue, parler et écrit. Je suis apte à enseigner l'anglais malgré une 11e année.
Oui, c'est vrai. Puis c'est pas tous les profs. Hey, ça, c'est vraiment spécial. C'est pas tous les profs d'anglais au Québec qui parlent bien anglais.
C'est vrai.
Ça, c'est vraiment, vraiment bizarre.
Yes, no toaster, comme on dit.
C'est ça.
Il y a bien des profs au cégep technique qui n'ont aucune pédagogie et qui sont très bons.
Oui, cégep, c'est différent. Par contre, t'as pas un bac en enseignement quand t'es au cégep. T'as le bac dans la spécialité où tu es. Puis ça, je pense que c'est vraiment très, très bon.
Mais ça arrive, mais le contraire arrive aussi, que tu maîtrises très bien ton domaine de travail, par exemple, un ingénieur ou quoi que ce soit, mais que tu demandes à l'ingénieur d'expliquer la matière, puis là, ça peut être hautement problématique, tu peux rien comprendre. Mm-hmm. Mais lui, il se comprend, puis il est très bon. Fait que dans les deux cas, ça peut être ça. Ensuite, Philippe qui dit, on peut pas comparer son salaire avec... Ben, c'est pendant l'entrevue, fait que c'est un petit peu...
Ah, ben, c'est ça, quand Mme Scalabrini parlait des salaires des enseignants, entre autres, là, que si on augmentait un petit peu les salaires, ça pourrait devenir une profession plus attrayante. Et on peut pas comparer son salaire avec un professeur du BC, par exemple, parce que le coût de la vie est pas le même. Ça, c'est vrai, là. Quand on calcule les salaires, puis on fait des comparatifs, il faut le faire en respectant le coût de la vie, là, ça, c'est certain.
Je comprends. Les commissions scolaires appliquent à outrance la discrimination positive. Il en résulte beaucoup de congés de maternité à gérer. L'enseignement est une vocation et non juste une question d'argent.
Ça, c'est vrai.
C'est sûr qu'il faut que tu y ailles pour les bonnes raisons, comme dans plusieurs métiers, on s'entend.
Oui, c'est vrai. Mais tu as des métiers, on dirait que c'est plus important d'y aller pour
l'enseignement.
Enseignement, infirmière, tout ce qui touche avec tout ce que.
Préposé aux bénéficiaires.
Ouais,
encore là, on ne peut pas parler de salaire pour eux. Là,
non, vraiment pas. Mais quand tu es appelé à travailler avec le monde, je pense que c'est important de le faire vraiment par conviction. Puis parce que c'est le métier qui te colle le plus à la peau.
Tout ce qui est humain, à la base, je pense.
Puis il y a Mike aussi qui dit, ben moi, j'aimerais ça, il est enseignante, on aurait les punchs des examens.
Ah, parce qu'elle dit que t'as ça. Il dit que tu dis que t'as les punchs.
Ben oui, c'est ça, exactement. Ça pourrait être mon sideline. Je pourrais donner un cours ici de temps en temps.
Ouais, je pense pas que tu resterais longtemps si on voit que tous tes élèves ont 100%.
Oui, c'est ça. Ça marche pas, je pense. Alors, voilà, c'était si vous avez autre chose à dire là-dessus, 25-226, il est 7h58.
Doc Mayou et José.
Lundi au vendredi, dès 9h30.
OFM 93.
Trouvez-moi un concessionnaire auto qui ne vous donne pas les pneus d'hiver. Mais il y a une différence chez Québec Mitsubishi. C'est qu'eux autres, ils vous donnent des Yokohama montés sur des jantes avec des capteurs d'origine. Ça vaut 1400$. Maintenant, trouvez-moi un concessionnaire qui vous donne du 0% à l'achat sur le Outlander 2018 ou jusqu'à 5000$ de rabais en argent. Avec 10 ans de garantie, Moi, j'en connais un, c'est Québec Mitsubishi. Fait que tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de venir chercher vos clés. Mieux construit, mieux garanti. Québec Mitsubishi, 1000 Pierre-Bertrand.
Vivez la magie des fêtes avec Ameublement Tanguay. Découvrez votre calendrier virtuel de Noël et avec tout achat, vous pourriez gagner l'un des 8 bas de Noël. Plus de 750 000 $ en prix à gagner. Grand choix de cellier, refroidisseur à vin et machine à café automatique ou à capsule. Seiko, Jura, Philips, Nespresso. Machine à café Philips, 499 $. Facilité de paiement disponible jusqu'à 50 versements. Signez votre Noël à Meublement Tanguay.
Ça fait quelques jours que je vous en parle déjà, la super promotion du Spa Infinima. Vous êtes un directeur d'entreprise, vous êtes un président, vous êtes un patron, vous avez des employés sous votre aile et vous voulez souligner le travail exceptionnel d'un employé en particulier. Vous avez sûrement eu le party de Noël, vous avez payé la traite à vos employés, mais il y en a un qui est vraiment un employé d'exception. Ben, soulignez-le avec un super concours sur le FM93.com en collaboration avec le Spa Infinima. Vous allez inscrire votre employé d'exception dans la section concours du FM93 et parmi les nommés en liste. Il y en a 5 chanceux qui vont devenir étoiles Infinima. Ils vont recevoir un super forfait Infinima pour deux avec accès au hammam Infinima, un massage pour deux, une pause santé et un verre de champagne. Alors, c'est qui dans votre entreprise qui mérite le titre d'étoile Infinima? Inscrivez-le sur le FM93.com et j'ai une première gagnante à faire ce matin. C'est Isabelle Girard qui a été nommée étoile Infinima par son patron. Bravo Isabelle! Voilà, les applaudissements. Bravo Isabelle. Alors, je vous rappelle, vous avez gagné un forfait Infinima pour deux avec accès au hammam Infinima, un massage pour deux, une pause santé et un verre de champagne. C'est une collaboration du Spa Infinima et FM 93.
À deux pas de Château Frontenac, découvrez la nouvelle Paulina Pizzeria. Dégustez pizza, canard confit, veau parmigiana et fondue au fromage. Paulina Pizzeria, 44 rue Saint-Louis.
Ici Jeff Caron, champion canadien des hommes forts. Parkett Nissan redouble d'efforts pour vous offrir dès maintenant encore plus de rabais. Commande la gang, un 500 plus.
Oui, Paquet ajoute 500 $ pour un total de 1000 $ de rabais sur le Rogue 2019. 1000 $ aussi sur la Sentra 2019.
Ah oui, on en met plus.
Et on en rajoute avec les pneus d'hiver gratuits, 5 ans de changement d'huile et un autre crédit de 500 $. Le décompte final, profitez-en maintenant chez Paquet Nissan Lévis, une Paquet et rien d'autre.
La santé de votre famille est au cœur de vos priorités. Les cellulaires et le Wi-Fi émettent des ondes qui nuisent à votre santé. Protégez-vous et votre famille avec les produits BioVibes qui vous offrent une protection naturelle contre les ondes électromagnétiques, offerte dans tous les bons magasins d'aliments naturels ou sur biovimes.ca.
Concentrez-vous sur la croissance de votre entreprise. Depuis 25 ans, nous nous occupons de vos chiffres chez Service Comptable Blaine McMartin. Notre priorité, votre satisfaction absolue. Joyeuses fêtes de la part de toute l'équipe de Service Comptable Blaine McMartin.
On a un chèque pour vous de 1 000 à 5 000 $ maintenant chez Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair. Changez pour une Kia grâce au chèque du Boxing durant l'événement Faites-vous un cadeau. Soul 2019 à partir de 19 495 $. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair ouvert le samedi.
Il attrape la rondelle, il voit une ouverture, il s'élance et Beaulieu sort dehors pour en griller une. Envoie quelques textos, regarde les passants, écrase et rentre. Oh, la foule est debout! Un poulet! Ce but va marquer l'histoire, chers auditeurs! On a rarement vu ça!
La prochaine fois, essayez plutôt la gomme Thrive et maîtrisez rapidement vos envies de fumer sans rien manquer. Thrive partout. Lisez toujours l'étiquette et suivez les instructions afin de vous assurer que le produit vous convient.
Si votre auto fait ce genre de bruit dans le banc de neige, c'est pas sûr que vous soyez à l'heure aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une Impreza ou une Crosstrek 2019 de Subaru, vous irez partout. En ville ou sur les chemins de campagne. De plus, Subaru vous offre un rabais de 500 $. Et ça, ça vous redonne le sourire. Subaru, confiance et évolution. Offre valide jusqu'au 31 décembre 2018 et disponible à l'achat ou à la location de certains modèles 2019 sélectionnés. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails.
Forever Gentleman, Rock Voisine, Garou, Corneille sont de retour avec des invités surprises. Revivez avec eux les plus grandes chansons. Billets sur forevergentleman.com.
FM 93, ça me parle.
De ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans ma ville.
93.
Ça me parle avec Sylvain Bouchard, Doc Mayou, José Arsenault, Myriam Segal, Luc Lavoie, Éric Duhem, Dan Pou, Paul-Raphaël Charon, Marc Boilard.
93.
C'est mes enjeux, mes intérêts, ma vie. Ça vient me chercher, ça m'interpelle. Ça me parle.
FM 93. Ça me parle.
Les actualités, une présentation de Calinette qui célèbre ses 25 ans avec 25 voyages à gagner. Vous êtes client, vous avez votre chance de gagner.
FM 93.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle. Avec Elisabeth Crête.
8h03, Vez, comment ça se passe sur les routes de Québec?
Ça se passe plutôt bien. Il faut dire que c'est la semaine avant Noël. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont en congé, entre autres plusieurs étudiants. C'est quand même assez lourd sur Henri IV, direction sud, à partir de Sainte-Geneviève jusqu'à Jean-Marchand. Après ça, il y a l'accès sur Capitale, direction ouest, dans le secteur Laurentienne. Évidemment, il y a un petit ralentissement là. Et l'accès à Henri IV sud également jusqu'à Amel. Sur Laurentienne, de Jean Talon jusqu'à Soumande, c'est soit achalandé, soit vraiment au ralenti. Et sur la rive sud, l'accès au pont La Porte, là, il y a un petit ralentissement dans l'entonnoir, mais vraiment rien de majeur. Il n'y a pas d'attente pour entrer dans les échangeurs.
La circulation présentée par le grand solde des fêtes de Paquette Nissan. Jusqu'au 20 décembre, aidez-nous à remplir le titan de Noël de denrées et courez la chance de gagner 100$ chez Resto Plaisir.
Les personnes âgées consommeraient trop de médicaments. Selon une étude rapportée par le Journal de Québec, les pharmaciens jouent un rôle important dans la consommation de pilules des aînés. Sur 248 participants à l'étude, 106 sont parvenus à cesser l'usage d'au moins un médicament. La chercheuse affirme que les pharmaciens ne devraient plus être rémunérés à la prescription, mais plutôt aux patients. Le Québécois André Tamine a été condamné à une peine de prison de 8 ans et 5 mois en Australie pour avoir importé de la cocaïne en quantité commerciale. La décision a été rendue hier au tribunal de la Nouvelle-Galles du Sud. La peine d'André Tamine commence en 2016 lorsqu'il a été arrêté. Il avait été arrêté en compagnie d'Isabelle Lagacé et de Mélina Roberge le 29 août 2016 après que le navire de croisière Sea Princess s'est accosté dans la ville de Sydney. Et depuis minuit, les policiers n'ont plus besoin de soupçons raisonnables pour demander un échantillon d'haleine à un conducteur. Ces changements dans la réglementation concernant la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool vont conférer davantage de pouvoir aux policiers.
Le Canadien a subi une défaite de 4-0 hier contre les Bruins de Boston. Blanchissage de 22 lancés pour Yaroslav Halak. Le Canadien a cédé après le match le défenseur Noah Yolson au Rocket de Laval et rappelé Victor Mété. Et les Flyers de Philadelphie ont finalement congédié l'entraîneur-chef Dave Axel pour le remplacer par Scott Gordon, qui pilotait leur club école. Les Flyers sont au dernier rang de la conférence de l'Est.
Ça commence à s'éclaircir tranquillement, mais c'est une journée nuageuse qu'on aura avec parfois par certains... Dans secteur, il y a de la faible neige intermittente. Ça devrait cesser en cours de matinée. Minimum de moins 14 pour aujourd'hui. Demain, mercredi et jeudi, c'est du soleil. Actuellement, il fait moins 7 à Québec.
La météo, une présentation de Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. On a un chèque pour vous de 1 000 à 5 000 maintenant et on rachète votre bail. Changez pour une Kia grâce au chèque du Boxing durant l'événement Faites-vous un cadeau. Soul 2019 à partir de 19 495
FM 93. Ça me parle.
8h06, on avait un conseil de ville hier soir. Et qui dit conseil de ville, dit notre courageux journaliste, Jonathan Bernard, en studio.
Salut.
Ça va bien?
Ça va très bien. Puis je dois vous dire, c'était le dernier conseil municipal de 2018 que j'intitulerais « Il est temps que ça finisse ».
Ah oui, j'ai eu des bribes un petit peu sur Twitter. Ça a eu l'air de brasser un petit peu hier. Hein?
Ouais, un petit peu. Parce que, bon, première des choses, faut mentionner qu'hier, c'était le retour de Patrick Paquet,
oui.
qui a été élu, en fait, lors de la partielle dans Neuchâtel-le-Bourgneuf. Et ça a été souligné. Ça a été souligné le matin lors de l'étude du budget. Mais ça a été souligné par son collègue Jean-François Gosselin, le chef de l'opposition. Et ça a donné place à... une démonstration de joie provenant de la salle que le maire a pas tellement apprécié. Puis je vous dirais que il a pas mâché ses mots pour faire comprendre aux gens qui ont exprimé cette démonstration de joie que c'était un peu inapproprié et ils se sont fait rabrouer, soit dit en passant, par la présidente.
OK, c'est ça. Parce que j'allais te demander, c'était-tu vraiment exagéré ou on peut dire que c'était juste correct de souligner le retour d'un conseiller?
Voulez-vous savoir si c'est exagéré? À vous d'en juger.
Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau collègue, vos membres de l'opposition officielle, M. Patrick Paquette. Bienvenue, Patrick.
Excusez-moi. Je m'excuse, je vous arrête. Les gens dans la salle, je comprends que ce sont des gens de votre équipe, mais je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien rester calme. C'est ce qu'on demande à tous ceux qui se présentent ici dans la salle du conseil, de ne pas manifester leur contentement ou mécontentement de quelque façon que ce soit. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien respecter cette consigne.
Attends,
on a entendu une petite voix,
Fessé.
Pardon? Sincèrement, si c'est un règlement du conseil de ville, je comprends, mais il me semble que tu fais juste... Il vient d'être élu. Écoute, c'est un beau moment pour l'opposition. C'est pas si grave que ça.
Fessé.
Puis des applaudissements, on en a à d'autres moments. Par exemple, quand il y a des fonctionnaires qui prennent leur retraite, ben ils sont salués souvent. Il va y avoir des applaudissements du genre. Ou sinon, quand il y a une motion pour féliciter quelqu'un, ça va arriver quelques fois qu'il va y avoir des applaudissements de la sorte. Mais là, ça provenait de la salle. C'était visiblement des partisans de Québec 21 qui étaient regroupés et qui attendaient que ça pour se lever puis se mettre à applaudir.
Ben, tu sais, si ça avait duré 2-3 minutes puis ça finit plus de finir, j'aurais compris. Mais là, ça a duré quoi, 3-4 secondes avant que la présidente dise OK, c'est
ben,
beau, c'est
ça.
Assez.
Ça n'a pas été très long.
Ben là, je trouve que c'est exagéré un petit peu. Là. Ils ont le droit d'être contents. C'est le troisième conseiller qui est élu pour ce nouveau parti-là. Je vois pas le problème, sincèrement. Là.
Et concernant Patrick Paquet, M. Labeaume a aussi souligné à sa manière. Le retour de M. Paquet au conseil municipal. Ben oui, c'est un ancien d'équipe Labeaume.
Ben
Et jusqu'à présent, M. Labeaume, ce qu'il disait, il dit « on connaît le moineau ». On connaît le moineau.
Ça veut dire quoi, ça?
Ben, à chaque fois, on voulait en savoir un peu davantage, puis il nous répétait ça. Mais là, hier, il est allé un petit peu plus loin, puis je vous dirais que les esprits se sont un peu échauffés.
Profitez pour saluer l'arrivée d'un nouveau collègue. Je vais lui demander d'être un petit peu... compréhensif si on a de la misère à comprendre ses idées, parce que en toute amitié, il faut juste dire qu'il a réussi l'exploit d'être membre de 4 partis politiques en 10 ans. Alors.
Question de privilège, Madame la Présidente. Ça n'amène absolument rien au débat.
C'est quand même une réalité, là.
On peut savoir le parcours du maire, là, joue là-dessus.
Oui, le maire, RMQ, PQ.
Continue, Monsieur le maire.
ADQ.
Soyez vigilant.
Non, mais...
On se calme, s'il vous plaît.
Non, mais... Écoutez, il n'y a pas de problème, là. Puis bienvenue, c'est juste que quand tu as été membre du élu du RMQ, élu d'équipe Labeaume, élu de Mme Guérette, Démocratie Québec, puis Québec 21, avouez que...
Indépendant,
on va essayer de comprendre, hein? Parce que tout ce qui se dira ici, on pourrait trouver le contraire dans les 10 dernières années. Je veux juste dire ça.
Les esprits s'échauffent, les couteaux volent bas. Mais c'est vrai que M. Labeaume aussi était membre de certains partis, là.
Ben oui. T'sais, il a voulu se présenter pour le Parti québécois, il a voulu être pour le renouveau municipal auparavant, avant de se présenter comme indépendant à la mairie, de l'emporter, de se faire son parti. Fait que,
Ouais, c'est ça, là.
En tout cas.
Ça portait rien au débat. Je suis d'accord avec M. Gosselin, là, c'était un petit commentaire. Surtout après, il dit non, mais c'est pas grave, là. Ben, si c'est pas grave, pas besoin de le mentionner à ce moment-là, là. On s'entend. Et c'est pas la seule chose qui a brassé, par exemple, hier soir au conseil de ville. On aurait pu avoir une expulsion.
Ouais. Maître François Marchand.
Si on le connaît, lui, parce qu'il a voulu se présenter, d'ailleurs.
Oui, bien, il voulait être chef de Démocratie Québec. Oui, c'est finalement Anne Guérette qui l'a emporté lors de la course à la chefferie, on s'en souviendra. Mais bon, ça s'est terminé aux dernières élections pour Mme Guérette. Pour M. Marchand, bien, il reste toujours un militant engagé. Et hier, c'était sur la question du phare. Il a ressorti des vieilles contradictions du maire par rapport, justement, à la hauteur des bâtiments, puis tout le kit. Parce que là, on sait, hier, ils sont allés de l'avant avec le projet du phare. Ouais. Il va pouvoir y avoir une tour de 65 étages. On contourne donc le programme particulier d'urbanisme. Et hier, M. Marchand a voulu intervenir lors de la période de questions destinée aux citoyens. Et n'eût été du maire, il aurait été escorté à l'extérieur.
C'est le maire qui a décidé qu'il ne serait pas expulsé.
Oui, mais ben, on l'entend très peu, le maire, parce que le micro n'était pas ouvert, mais peut-être que vous l'entendrez dans le prochain extrait. Mais je vous le dis, là, hier, on se serait cru à petite école.
Monsieur Marchand, je vous prierai de vous taire. Vous connaissez le fonctionnement des séances conseil. Alors, je vous demanderai de vous asseoir. Nous allons... Monsieur Marchand, souhaitez-vous qu'on vous sorte de la salle? Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Non? Donc, asseyez-vous. Je vous remercie. Taisez-vous. Asseyez-vous. Madame la policière, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir sortir monsieur qui ne veut pas respecter les règles. Je vous offre une dernière chance de vous asseoir. Asseyez-vous, Monsieur Marchand, là. Ah, Monsieur Marchand, franchement, vous connaissez la procédure, là? Le spectacle ici ce soir, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, je ne crois pas. Donc, asseyez-vous.
Ouais, là, j'ai l'impression qu'il va faire son show un petit peu, Monsieur Marchand.
Non, l'esprit de Noël, il est où?
Il n'y en avait pas tellement hier au conseil, je dois t'avouer. Et bon, je vous ai parlé du phare. Oui, on va le groupe d'alerte va pouvoir y aller de l'avant avec le projet de 65 étages. Également, on a mis des conditions.
Ah.
On veut que le pôle d'échange souterrain soit construit avant le 1er janvier 2022 pour que le tramway puisse s'y raccorder à un moment donné. Et aussi, dans un avis de motion qui a été présenté hier, on a indiqué aussi qu'il faut que ça soit écrit noir sur blanc que les frais du pôle d'échange souterrain sont à la charge du promoteur. Donc, ce n'est pas la ville qui va devoir payer ça.
Donc, c'est M. Dallaire qu'il faut qu'il paye le pôle d'échange.
Oui, okay. Il s'est engagé à le faire.
C'est correct.
Donc, on fait juste demander par contrat que ce soit signifié à quelque part et aussi qu'on ne dépasse pas les délais. Et autre projet majeur qui ira de l'avant, c'est le Power Center près du IKEA.
Ah!
Il y a eu hier un règlement qui a été adopté pour modifier le zonage un peu. Et donc, il va pouvoir y avoir une espèce de centropolis dans ce secteur-là. Donc, Cominard qui obtient le feu vert également de l'administration là-bas.
On sait-tu ce qu'il va y avoir exactement? On parle de quoi? On parle de restaurants, bars?
Ben, il va y avoir des commerces.
Commerce,
ouais. Oui, regardez, il y a déjà Sportium qui a été annoncé.
Mais c'est
pas
juste
Sportium,
en...
mais je me trompe. C'est une
chaîne française. Oui, je sais que tu parles en plus.
Décathlon.
Oui, Décathlon, c'est ça. On l'a eu! Tu l'as sur le bout de la langue, puis t'es stressé parce que tu ne l'as pas. Là. Mais il me semble que c'est en face d'un Power Center déjà qui est à Duplessis. C'est pas un peu proche au niveau de.
Ah, ben regardez, eux autres, ils ont évalué le potentiel. Ah, bon. C'est sûr okay. Et certain qu'un IKEA, si on regarde du côté de Boucherville, ce que ouais. Ça a fait, là, ça a poussé un peu partout
autour.
Oui,
c'est vrai, effectivement.
Fait que, tu sais, ça attire suffisamment de clientèle pour que ce soit rentable pour eux. C'est comme ça qu'ils l'estiment. Puis il va y avoir aussi un développement résidentiel qui va se faire autour
oui.
De ça.
OK. J'ai l'impression que ça pourrait faire mal un petit peu au centre de Duplessis, ça, là, à côté du cinéma, puis où il y a l'Archipel et les autres commerces, mais c'est à suivre. C'est une bonne nouvelle. Écoutez, si ça se développe à Québec, on va pas chialer pour ça, certainement, non? Et donc, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a été question du métro hier?
Oui. En fait, c'est l'opposition qui est revenue à quelques reprises avec le sondage que l'on a commandé ici, sondage Cogeco Nouvelles, qui mentionne que les gens de Québec veulent que l'on étudie du moins un projet de métro à Québec pour savoir combien il en coûterait. Jean-François Gosselin a parlé du maire comme étant déconnecté de la population parce mm-hmm. qu'il ne répond pas justement à la demande des gens qui veulent que l'on étudie ça. Et là, hier, M. Labeaume est allé d'estimation sur un métro. Il est monté pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six. Il était rendu à 7 milliards, même peut-être 13 milliards.
Mais voyons.
Comment il en arrive à ça?
Oui, s'il vous plaît. Le calcul,
c'est
s'il
que,
vous plaît.
Bon, première des choses, il dit à 200 millions du kilomètre, plus le projet de trambus, lui, oui. Il évalue ça d'abord à 4,6 milliards. Mais il dit, si on se base sur l'évaluation, sur combien ça a coûté pour le métro de Laval à 250 millions, là, il dit, ça pourrait chiffrer jusqu'à 7 milliards, 7,6 milliards, nous a-t-il dit. Et ensuite de ça, il dit, ben, si on regarde la ligne rose là, qui est projetée à peu près 600 millions du kilomètre, là, il dit, on frôle facilement le 13 milliards.
Ben, c'est vrai qu'il y a eu des dépassements de coûts ailleurs au Québec. Là. C'est sûr que si on se base sur des coûts ailleurs dans le monde, on a l'impression que ça se passe toujours mieux. Mais ici au Québec, il n'y a pas tort de dire qu'il y a toujours des dépassements de coûts par rapport aux lignes de métro. Je ne sais pas pourquoi, là, mais si vraiment ça se limitait à 200 millions de kilomètres, on serait vraiment meilleur qu'à Montréal, là, vraiment. Est-ce qu'on l'est réellement? C'est-tu vraiment des gens différents qui feraient le métro ici à Québec, à Montréal? Je ne sais pas. Là.
Donc, M. Labeaume nous a dit qu'il en veut un métro, mais il ne croit pas vraiment.
Oui, si j'aimerais savoir un métro, c'est juste qu'au-delà de la parole, il ne se fera jamais à Québec. Il n'y a pas un gouvernement fédéral et provincial qui va mettre 6, 7 milliards de dollars pour un métro à Québec. Ça n'arrivera pas. Alors moi, j'essaie d'être réaliste, logique. Je vais devoir le répéter et je vais le faire dans les prochaines semaines. J'aimerais ça avoir un métro, mais ça n'arrivera jamais. Il n'y a pas un gouvernement qui va accepter de mettre des milliards dans un métro. Imaginez-vous. 5, 6, 7 milliards pour un métro, 5, 6, 7 milliards pour un troisième lien. Voyons donc. Ça se peut pas, là. Ça n'arrivera jamais. Et là, je répète, on peut pas être d'accord avec des autobus et seulement des autobus pensés qui s'appellent travail et répéter que les autobus, c'est correct. Puis du jour au lendemain, dire que le métro est rien, c'est l'œuvre de Colomb. Puis dire que finalement, le métro souterrain, ça nous passait à Québec. À un moment donné, ça prend juste un peu de cohérence.
Mais le problème là-dedans, c'est que dans les faits, ce qu'il dit, M. Labeaume, c'est pas faux. C'est vrai que si le troisième lien est à 5 milliards plus le métro à 5-6 milliards, si c'est ça que ça coûte, c'est vrai que les gouvernements n'accepteront pas de payer ça. Mais le problème, c'est qu'on veut pas que les chiffres viennent de la bouche de M. Labeaume sans étude. Ce qu'on veut, c'est avoir des chiffres réels. Et si vraiment M. Labeaume a raison, je suis convaincue qu'il y a un paquet de monde ce matin qui vont dire, OK, c'est beau, écoutez, on a rêvé pour rien. C'est correct le temps que ça a duré. Mais effectivement, les gouvernements n'ont pas les moyens de mettre près de 10 milliards dans la ville de Québec pour différents projets. Mais les chiffres ne doivent pas venir de M. Labeaume
bombe en conseil de ville comme ça, basée sur absolument rien ou des estimations en comparant Montréal. Ça prendrait juste une étude en bonne et due forme et que ces chiffres-là proviennent de spécialistes. Et là, je pense que ce serait plus crédible.
Il dit, on peut en parler longtemps, mais pendant ce temps-là, on perd du temps. Puis il dit, les sommes qui sont à Ottawa pour le transport en commun vont s'envoler.
Oui, oui, là, il faut être opportuniste. Là. Pensez pas que ces sommes-là vont rester là tout le temps, parce qu'ils vont être attribués ailleurs, ça, c'est sûr. Ça prend des projets. Là. Si on veut ces sommes-là à Ottawa, il faut que le projet soit prêt. Sinon, il y a d'autres provinces, puis à Montréal, ils n'ont des projets aussi qui sont prêts. Là. Ensuite, on va sur le... on a parlé de ça, les terrains de la Défense nationale fédérale qui a décidé de donner les terrains à Sainte-Foy, juste en arrière de Place Laurier. C'est les terrains où il y a des maisons militaires, en fait, présentement.
Qui avaient, parce que je pense qu'elles ont pas mal toutes été détruites dans les dernières semaines, les derniers mois. Je vais vous dire, c'est pas fait encore, là. Faut faire attention. Là, il y a un promoteur qui est intéressé. Hier, il était en page frontispice du Journal de Québec. Il disait que la Ville de Québec pourrait se priver annuellement de revenus de taxes de l'ordre de 5 à 10 millions de dollars.
Effectivement.
Et là, on a questionné le maire là-dessus. Il nous a dit, c'est certain que j'en veux toujours plus des taxes. Un peu à la blague, bien évidemment, mais bon, c'est sûr que là, c'est en plein milieu de la ville. Mais il marche vraiment sur des œufs dans ce dossier-là parce que il sait pas trop où se placer. Puis le prochain extrait que je vais vous faire entendre, là, vous allez voir, il y a un certain malaise par rapport à la volonté de la communauté Huron-Wendat de mettre la main sur ces terrains-là.
Ah oui?
Je sais pas encore comment réagir parce que je veux pas. Ma première affaire, ça me tente pas d'avoir le sein sur l'épaule, première affaire, là. Et les relations des Autochtones avec le gouvernement fédéral, j'aimerais mieux pas m'en mêler. C'est sûr qu'on est pas mal chez nous, là. Hein? C'est un peu fatigant. Alors, nous autres, on est dans un... On s'en va s'informer. Moi, je l'ai appris, j'avais jamais entendu parler de ça. Jamais. Ni du chef, ni de Joël, ni de personne. Alors, je peux pas vous en dire plus. Mais il y a des règles qui existent pour extensionner les réserves. Alors, je sais pas, là, c'est spécial. Je sais pas quoi vous dites. Et surtout qu'en passant, là, j'ai lu le matin qu'il pourrait y avoir du résidentiel et du commercial. Là, il va falloir qu'on se parle. Parce que le commercial, là, pas ça n'importe où, là, tu sais.
Oui, il y en a en masse déjà du commercial dans le secteur, là, ça c'est sûr. Sauf que pourquoi il y a un malaise du côté de la communauté Wendat?
Ben, en fait, le maire nous a dit, et nous l'a mentionné il y a à peu près un peu plus d'une semaine de ça, qu'il y a des règles entourant l'agrandissement des réserves autochtones. Il dit la règle, et j'y vais sur la foi des informations que M. Labombe nous a mentionné il y a à peu près un peu plus d'une semaine, c'est que ça peut pas être plus loin que 150 mètres à vol d'oiseau.
Okay.
Là, on est plus loin que 150 mètres à vol d'oiseau. Est-ce que lui va demander que le fédéral applique le règlement et que ce terrain-là ne soit pas considéré comme un terrain autochtone, un territoire autochtone? Parce que là, la ville n'a plus juridiction. La seule chose qu'ils vont faire, c'est fournir des services en eau, en aqueduc, que la communauté devra payer à la ville. Il dit ça, ça se négocie. Fait que là, on sent que... Il marche sur des œufs, il sait pas trop où aller. Aujourd'hui, il va rencontrer le ministre Duclos lors d'une annonce pour l'Aube-Rivière. Il a dit qu'il était pour lui en parler certainement.
Mais ça créerait pas un peu de malaise avec cette communauté-là, par exemple, si la ville commençait
C'est pour ça que là, il a pas voulu trop se mouiller,
ça,
de peur de froisser, je crois.
C'est
mon interprétation, la communauté, mais je pense qu'en arrière, il se passe quelque chose et il veut avoir des informations provenant du gouvernement fédéral pour savoir où on en est là-dedans. Puis est-ce que c'est vraiment la volonté du gouvernement fédéral de faire ça?
Oui, parce que ça va bien les relations avec cette communauté-là présentement. Puis ça, c'est pas comme ça dans toutes les relations entre les villes et les communautés en passant. On est quand même relativement chanceux à Québec que ça se passe bien. Ce serait plate. Là,
c'est pour ça que je vous dis qu'il marche vraiment sur des œufs présentement parce qu'il veut pas briser la relation qu'il a avec M. Sioui. Puis en même temps, je pense qu'il voit ces terrains-là puis il y a de l'intérêt lui aussi. Là, parce que c'est des revenus de taxes qui sont intéressants dans un secteur qui est à densifié, qui est près du nouveau pôle d'échange qu'il va y avoir au phare. Fait que, en tout cas.
Passons maintenant à la rivière Lorette. Joe, le maire attire à boulet rouge sur le ministère de l'Environnement.
C'est long. Peut-être vous rappeler rapidement. Premier débordement, 2005. Deuxième débordement, 2013. La ville a proposé des mesures pour justement améliorer la situation, sortir les résidents du secteur de la zone inondable. Et là, à chaque fois, on y va d'autorisation en autorisation en autorisation, puis en exigence du ministère de l'Environnement. Puis là, il dit, regardez, là, il dit, ça finit plus de finir. De retard en retard. Les travaux devaient être terminés en 2018. Et là, on dit, On espère que ce sera terminé en 2020. Il y a déjà 36 millions de dollars qui ont été mis en aménagement sur la rivière, que ce soit des bassins de rétention, des ponts qui ont été changés, mais il reste encore pour 10 millions à mettre. Et là, hier, on nous a expliqué, lors de l'étude du budget du côté de l'ingénierie, que ça retardait, puis c'était tout le temps des exigences du ministère, puis ça en finissait plus. Puis le maire a perdu un peu patience. Je vous invite à écouter.
Ils nous retardent. Puis une fois qu'ils ont retardé, ils ne sont pas capables de nous garantir, avec les travaux qu'on leur propose, qu'ils vont sortir les gens de la zone inondable. C'est épouvantable, cette affaire-là. C'est de l'inertie totale. Vous n'avez pas besoin de le dire parce que vous autres, vous négociez avec eux autres. Moi, je peux vous dire que ça, je dois le dire. Il faut dénoncer ça, ce qu'ils font là. Ça se peut pas. Ça fait combien d'années qu'on est là-dessus, là? 2005. Ça fait 13 ans qu'on est sur le dossier. Il y a eu une autre inondation depuis ce temps-là.
Puis la ministre Guilbeault aussi avait son mot à dire sur ça.
Ben oui. Puis juste avant de vous faire entendre la ministre Guilbeault, c'est qu'il y a eu un autre dossier qui est arrivé devant le comité plénier. Et c'était à propos d'un garage, le garage de l'Auvergne. Ça fait 2 ans qu'ils attendent une approbation du ministère de l'Environnement pour un bassin de rétention. Ça fait 2 ans. Fait que le maire, il dit, regardez, là, c'est encore une démonstration que c'est long, puis ça finit plus de finir. Et là, un peu plus tard, en après-midi, le maire Labeaume était aux côtés de Mme Guilbeault, la vice-première ministre. Mm-hmm. Et là, on a voulu savoir, est-ce qu'il y a possibilité que ça aille un petit peu plus vite? Et là, elle nous a dit, ben, vous aurez compris qu'il y avait des gouvernements avant nous autres, hein? Puis c'est peut-être un peu de leur faute.
Évidemment, force est de constater qu'on arrive, nous, avec un lourd héritage. Là, il y a eu plusieurs gouvernements avant nous et il y a une façon, je pense, de travailler dans certains ministères qui est lourde et qui est lente. Donc, on a tout un travail à faire, là, pas seulement à l'environnement, mais entre autres à l'environnement. On va travailler le plus fort possible pour que les choses s'améliorent, toujours conformément aux lois et aux normes, bien sûr, mais je pense qu'il y a moyen, des fois, d'aller un petit peu plus vite quand on veut vraiment.
C'est-tu le fun d'être un nouveau gouvernement? Hein? Les premiers mois, tu peux tout mettre ça sur le gouvernement avant toi, puis ça te dédouane de toute responsabilité dans tous les dossiers. C'est merveilleux. Alors, on va parler du Colisée maintenant. Oui. Je pensais vraiment que le Colisée de Québec, l'ancien Colisée, évidemment, disparaîtrait assez rapidement, mais il est encore là.
Il est encore là, puis il y a des questions qui sont provenues de l'opposition hier, parce que il n'y a aucune somme qui est inscrite au programme triennal des mobilisations. Donc, il n'y a rien dans les livres de la ville prévu d'ici 3 ans pour la déconstruction éventuelle du Colisée. Et là, dans 3 ans, ça mène à quand? La fin du mandat de M. Labeaume. Fait que là, est-ce qu'il repousse ça le plus longtemps possible pour que ça arrive à son successeur éventuellement, puis qu'il n'y ait pas l'odieux d'arriver avec une facture qui risque d'être passablement salée parce que ça risque de coûter passablement cher pour la déconstruction de l'ancien domicile des Nordiques. Et là, le maire Labeaume a été questionné là-dessus, puis il a entretenu le flou.
Ben, on va attendre que les travaux finissent. On a encore pour entre 1 et 2 ans pour prendre la décision finale. Je vous l'ai dit, il faut terminer le marché, ensuite le boiser. Une fois tout ça sera terminé, ce sera le temps de procéder. Là.
Donc, il dit tous les travaux qu'il y a dans le secteur. Là, on finit le grand marché. Ça va être terminé cet été. Il devrait ouvrir cet été. Ensuite de ça, il y a des travaux pour faire des sentiers d'hébertisme dans le boisé adjacent. Là, ça empêche-tu vraiment de...
Boisé adjacent?
Ah, ouais.
Juste en face du centre Vidéotron?
Ouais, juste à côté de la place Jean-Béliveau. Il y a un petit boisé, là, puis là, il y a des aménagements qui sont prévus là. Mm-hmm. Mais est-ce que ça empêche la ville vraiment d'y aller avec la déconstruction du Colisée?
C'est ça, là. C'est plus des excuses, j'ai l'impression. Alors, ça va être à suivre.
Il coûte 79 000 par année à entretenir le Colisée actuellement.
C'est pas ça?
Non, c'est pas beaucoup, mais en même temps, regardez, c'est une infrastructure à un moment donné qui va falloir jeter à terre.
Ouais, mais là, il est utilisé dans les prochaines semaines. Il n'y a pas un groupe qui vient
Peut-être, mais en tout cas.
Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et en terminant, bonne nouvelle pour Vez, notre valeureux chroniqueur à la circulation. Le trafic sur Capitale, ça risque de se poursuivre encore et peut-être même pire que ce que c'était.
Oui, ma job est assurée.
Oui, bravo Vez.
T'as de la job au moins jusqu'à l'été prochain, Vez, parce qu'ils vont éventrer le tour de Capitale sur sa largeur. Pourquoi? Pour passer des tuyaux d'eau pluviale. Là, actuellement, il y a de l'eau qui arrive du nord de la ville, de l'eau qui arrive du réseau pluvial, et ça vient comme s'accoter sur l'autoroute Laurentienne. Mais là, il faut faire passer cette eau-là quelque part. Donc, ils vont installer des très grosses conduites. On nous a comparé ça un peu à une rivière souterraine. Et ça va être entre Pierre-Bertrand et Robert Bourassa. Il va falloir qu'on passe ça, mais l'été prochain. Là, ce qui a fait dire un projet de 7 millions de dollars, un projet qui est qualifié comme majeur. Pourquoi on n'y va pas avec un tunnelier? Pourtant, on l'a fait pour passer en dessous d'un dépôt à neige. On nous a dit, ben c'est qu'on risquerait de causer des dommages à l'autoroute. Là, ils vont en causer un dommage à l'autoroute. Ils vont l'éventrer. Et bien évidemment, on va s'assurer qu'il y ait des voies qui soient conservées pour que la circulation puisse continuer à passer. Et le maire aussi a mentionné au service d'ingénierie, assurez-vous donc d'avoir des dates là.
Et c'est combien de temps ça?
Où il y a moins de trafic. Ils n'ont pas été en mesure de nous donner d'échéancier, donc combien de temps ça va prendre, puis à quel moment ça va commencer. On nous a dit que ça devrait être coordonné avec des interventions du ministère des Transports dans ce secteur-là.
C'est à suivre. Ben merci beaucoup, Joe.
Salut.
Merci beaucoup, il est 8h28.
Dès 18h au FM 93.
Chez Kia Lévis, on est en avance puisque la vente d'après-Noël est déjà commencée. En plus de vous offrir 4350$ de rabais sur la Forte Hilux Plus 2018 à transmission automatique, Kia Lévis vous offre aussi 4 pneus d'hiver gratuits. La Forte Hilux Plus est donc maintenant offerte à seulement 17 795$. Chez Kia Lévis, on est déjà après Noël. Allez, faites-vous un cadeau.
Conseil de cadeau de Dormez-vous. Le meilleur cadeau à offrir est un meilleur sommeil. Ça tombe bien, c'est le solde meilleur sommeil en cadeau de Dormez-vous. Aussi, trouvez de confortables oreillers grand lit en laine ou en microgel ou des Luxirx ou des ensembles de draps essentiels de toutes tailles et couleurs pour 39,99 chacun. Imaginez les compliments et votre douce moitié dira... Il y a quelqu'un? De plus, obtenez un matelas grand lit en super achat pour 379$. En ce moment, seulement chez Dormez-vous, tout pour le sommeil.
En décembre, détendez-vous gratuitement au Spa des Neiges. Offrez un chèque cadeau de 100$ et plus et nous vous offrons un accès au bain Vallée d'en soirée gratuitement. Vous prévoyez une activité de groupe? Réservez la station juste pour vous. Détails au Spa des Neiges entre fleuve et montagne à Sainte-Anne-de-Beaupré.
L'essence, ça coûte cher. L'entretien, c'est nécessaire. Puis il faut jamais oublier de faire son changement d'huile. Pour Noël, Sainte-Foy-Andé t'offre le plus beau cadeau du monde. Te faire rire. Pendant l'événement Ça va chauffer, procure-toi la Ioniq, notre voiture 100% électrique pour seulement 115$ par semaine grâce au chèque de 8000$ que te donne le gouvernement. Mort de rire, hein? Joyeux Noël!
Moins de troubles, plus de gaz, plus de changement d'huile.
Construire votre maison usinée comme si c'était la nôtre, voilà la philosophie de Maître Constructeur Saint-Jacques. Visitez nos 11 maisons modèles réparties dans nos succursales de Saint-Jacques-de-Leeds, d'Ascot Corner, chez Construction Caron et Fils et à Sainte-Eulalie, en bordure de l'autoroute 20, sortie 204. MaîtreConstructeurSaint-Jacques.com.
Barbies Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance.
Midi Express de Barbies étire le bon temps de 11h à 15h, 7 jours sur 7. Le menu Midi Express de Barbies, 10 délicieux repas complets à savourer au 330 rue Bouvier, Le Bourgneuf. Détails à barbiesgrill.com.
Pour vos cadeaux aux amoureux des outils, c'est la vente avant Noël au centre de service de Walt. C'est 20% sur tout en magasin. Des outils réusinés et des surplus d'inventaire à 20 % de rabais.
C'est au centre de service DeWalt, 49 75 Rideau.
Ben arrête donc, toi. T'es-tu sérieux?
Si PA Méthode était imitateur...
Hein? J'en reviens pas.
Il serait excellent pour imiter les clients de Saint-Foy Nissan et Beauport Nissan lorsqu'ils apprennent que nous offrons nos derniers modèles 2018 à des conditions de fin d'année.
C'est incroyable!
Par exemple, avec 5 000$ de rabais, la Sentra SV 2018 n'est qu'à 69$ par semaine avec zéro comptant.
Je t'assomme.
Le grand solde des fêtes, c'est le Boxing Day avant tout le monde chez Saint-Foy Nissan et Beauport Nissan.
Besoin d'une hypothèque? Alexandre Ouellet. Vos dettes vous étouffent, avis de 60 jours, prêteur privé, diminuez vos paiements. AlexandreOuellette.com pour renouveler, financer, consolider, on paye le notaire. Tanné de payer trop d'intérêts?
AlexandreOuellette.com.
Fix Auto, les premiers mots auxquels on devrait penser après un accident. Et votre premier choix en matière de réparation de carrosserie. Visitez fixauto.com pour une estimation sans obligation.
Avec Vidéotron, vos jeunes textent et parlent gratuitement. Alors les...
Non, j'ai pas eu ton appel, j'étais pas à maison.
Deviendront...
Non, j'ai pas eu ton appel, mon cell était sur vibration.
En vous abonnant à deux forfaits mobiles premium, obtenez deux forfaits voix et texto gratuits pour vos jeunes. Avec Vidéotron, vos jeunes textent et parlent gratuitement. Alors les...
Non, je pouvais pas t'appeler, j'ai pas de téléphone.
Deviendront...
Non, je pouvais pas t'appeler, j'avais plus de batterie.
En vous abonnant à deux forfaits mobiles premium, obtenez deux forfaits voix et texto gratuits pour vos jeunes. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron.
Chez Volvo de Québec, nous n'avons qu'une chose en tête, le bien-être de votre famille. Voilà pourquoi nos voitures sont équipées des systèmes de sécurité les plus évolués sur la planète. Profitez de l'événement Un cadeau signé Volvo sur les Volvo XC90. Détails chez Volvo de Québec. VolvoDeQuébec.com.
Qui dans votre entreprise mérite le titre d'étoile infiniment? Salut, c'est Elisabeth. Je m'adresse aux patrons et directeurs. Je vais vous aider à souligner le travail remarquable d'un employé. Inscrivez votre employé d'exception sur fm93.com ou sur notre Facebook. Parmi les nommés en lice, 5 chanceux deviendront étoiles infiniment. Ils recevront un super forfait infiniment pour deux avec accès au hammam infiniment, un massage pour deux, une pause santé et un verre de champagne. Une collaboration du Spa infiniment et du FM 93.